Je m'installe. Merci. Merci parce que moi j'ai l'impression qu'arrivé à ce moment du culte, j'ai déjà reçu plein de choses de votre part. Vraiment, vraiment. Les prières qui se sont élevées, les mots qui ont été dits, les paroles prophétiques qui ont été apportées. Waouh, ça me touche particulièrement. J'espère que vous serez bénis aussi par ce qui va arriver après. En tout cas, moi, pour ma part, je suis heureux de vivre ce temps-là avec vous. Dans ma Bible, j'ai des versets qui sont entourés. J'ai commencé cet exercice-là quand j'étais au collège biblique à 40 ans, en regardant la Bible de Michel qui mettait des couleurs partout, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis arrêté parce que quand je voyais sa Bible, c'était un arc-en-ciel. Et je me dis, je ne vais pas avoir la vie tout entière pour faire comme lui. Mais il y a un verset qui, ce matin, est un verset qui, pour moi, est un verset central de la révélation que j'ai pu recevoir dans ma vie personnelle de vivre avec Christ. Et ce verset, c'est celui qui va s'afficher. Voilà, c'est ce verset du chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Après avoir consacré 11 chapitres à définir pour les chrétiens de l'Église de Rome ce qui était une doctrine fondamentale, ce qui était l'essentiel sur quoi repose notre foi et notre espérance, 11 chapitres dans l'Épître aux Romains, Paul passe au chapitre 12 de la doctrine au devoir. Ah, j'aurais pas dû prononcer ce mot-là. Le devoir. C'est-à-dire que, après avoir dit, voilà sur quoi repose notre espérance et notre foi, il dit, ben maintenant, on en fait quoi de cela? C'est-à-dire comment on passe de la croyance, de la foi, à une bonne manière de se conduire, de vivre sa foi. En d'autres termes, l'apôtre nous encourage à vivre ce que nous professons. Waouh, il me semble que je répète la prophétie qui a été donnée tout à l'heure. Comment on passe de « voilà ce en quoi je crois » à « ce que je vis ». Alors, le thème de l'Épître aux Romains peut se réduire en cinq mots, six. « Le juste vivra par la foi ». Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'Évangile. Ah, je répète à nouveau la parole prophétique. Je suis désolé, je bégaye ce matin. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, et puis des autres. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et quand Paul, qui est un homme fondé sur la culture juive et rabbinique, son père spirituel, c'était le rabbin Gamaliel, eh bien, il sait qu'il cite là le prophète Habacuc, chapitre 1, verset 1 à 5. C'est lui qui dit, dans l'Ancien Testament, le juste vivra par la foi. Ainsi, les 11 premiers chapitres établissent ce fondement essentiel de la foi qui seul permet à l'homme d'être juste, d'être justifié, d'être sauvé. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que votre foi repose sur ce socle. Le juste vivra par la foi. Il vivra. C'est ce terme qui est souligné par Paul après une première partie qui explique, définit la doctrine du salut. Maintenant, au chapitre 12, l'apôtre Paul invite et exhorte à le vivre. Il y a vraiment une césure dans l'épître aux Romains, et ce que nous venons de lire, c'est le moment de bascule où, après avoir enseigné l'Église de Rome, il dit, maintenant, il faut le vivre tout ça. Le vivre dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton existence. Les 11 chapitres précédents, si vous les lisez, c'est de la théologie solide. C'est une doctrine établie, fondée. Et Paul passe au chapitre 12 de la doctrine au devoir, de la croyance à la conduite. En d'autres termes, l'apôtre nous encourage à vivre ce que nous croyons. Paul utilise l'impératif 13 fois dans les 11 premiers chapitres. Impératif, c'est un ordre, quelque chose qui est de l'ordre de « voilà ce que vous devez faire ». 13 fois dans les 11 premiers chapitres. Et dans le chapitre 12, il l'utilise dans ce chapitre seul 11 fois la forme impérative. Ça veut dire qu'il y a plus de commandements que tout autre chapitre du Nouveau Testament dans ce chapitre 12. Le chapitre 12 des Romains, c'est un chapitre d'action. Allez, vas-y ! Vas-y ! Avance ! Dans les deux premiers versets, il montre comment notre foi devrait changer notre comportement. Ensuite, il nous lance l'impératif d'agir. Ben ouais, les chrétiens, c'est pas des contemplatifs uniquement. Ce sont des hommes et des femmes qui mettent en action la foi qui est la leur, le salut qu'ils ont reçu. Si vous regardez un petit peu plus loin, il dit « Attachez-vous au bien !» C'est un impératif. Est-ce que c'est facultatif ? Attachez-vous au bien si vous le pouvez. Si vous sentez que c'est utile. Non, non, c'est « Attachez-vous au bien !» Ayez de l'affection. Pour tout le monde. Il y a une pub en ce moment pour encourager les enfants à aller faire du sport. Et il y a une maman qui posait... Moi, j'aime beaucoup cette pub. Et à un moment donné, on voit différents enfants. Puis il y a une maman qui dit, qui propose à son fils, « Et la piscine ?» Et l'enfant répond, « Dans l'eau ?» Oui, non. Ah ouais. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Ouais, mais je peux quand même sélectionner. Juliette, ça va. Je peux avoir un peu d'affection pour elle. Je ne mettrai pas d'autres prénoms, sinon ça va vexer des gens. Est-ce qu'on doit être sélectif ? Non, c'est un impératif. Ayez de l'affection pour ceux que Dieu place à vos côtés. Usez de prévenance. Ayez de l'empressement. Soyez fervent. Vraiment ? Servez le Seigneur. Non, il y a Michel. S'il y en a un pour servir, pour les tâches pratiques, il y a Nicole. On va quand même pas lui prendre son boulot. Non, servez le Seigneur. C'est un impératif pour Paul. Réjouissez-vous en espérance. J'ai pas quand même un peu besoin ou la possibilité de faire la tête quand j'ai envie. Moi, ça m'arrivait au début de mon mariage. Je dis, quand je suis pas content, je fais la tête. Puis ma femme m'a dit, non, ça marche pas comme ça. Réjouis-toi de ce que tu es. Soyez patient dans la tribulation. C'est dans le même chapitre 12. Soyez patient. Alors, tout ce qu'on a vu pendant les 11 premiers chapitres, ça veut dire que ça doit nous conduire à ça. Ce qu'on est appelé à vivre, l'expression de ma croyance et de ma foi, ça doit me conduire à ça, Seigneur. Si j'avais su... Si j'avais su persévérer dans la prière, va falloir s'y mettre. Parce que Marie-Yvonne est hospitalisée et qu'elle priait pour toute l'église. Donc là, on était tranquille, on avait une qui priait. Mais maintenant, elle est hospitalisée, on va faire quoi ? Faut s'y mettre. Persévérer dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Bénissez ceux qui vous bénissent. Excusez-moi, j'ai raté. Bénissez ceux qui vous persécutent. La foi, les 11 chapitres qui parlent de la foi, de ce que nous sommes en Christ et ce que Christ a fait en nous, ça nous conduit à cela. Ne maudissez pas réjouissez-vous, pleurez avec ceux qui pleurent, etc. Ça, c'est dans le 12e chapitre qui, pour Paul, est une exhortation à vivre et à vivre partout où nous sommes. Alors, je suis un peu... C'est écrit, hein, c'est dans mon texte. Hein, donc, j'ai pas repiqué et j'ai pas vu Juliette avant. Il est frappant de voir comment cette exhortation à vivre est posée par l'apôtre Paul, aussi bien dans la sphère religieuse que dans la sphère civile, avec le chapitre 13. 12 et 13, c'est « Voilà comment vous devez vous comporter à cause de votre foi dans le domaine spirituel, l'Église et autres, toute la dimension spirituelle. » Et chapitre 13, « Comment vous devez vous comporter dans la sphère civile ?» Ah bon, je ne peux pas être différent quand je suis au boulot. Moi, ça m'est arrivé d'avoir été interpellé par des collègues de travail, notamment quand, en tant que directeur, je posais des actes d'autorité de directeur. Et puis, je me rappelle d'une personne qui avait eu un comportement de malversation pendant son travail, que j'ai reprise avec sanction à l'appui, puis qui est venue me voir en me disant « Mais comment vous pouvez faire ça en tant que chrétien et pasteur ?» Parce que je suis chrétien et pasteur, et que pour moi, les valeurs du chapitre 12 s'appliquent aussi dans le chapitre 13. Mais non, je te rassure, tous les patrons ne sont pas obligés d'être chrétiens dans leur emploi. Quoique. Et quand cette personne m'a dit ça, mais comment pouvez-vous faire ça ? Ben parce que les valeurs que je porte dans ma vie d'église, dans ma vie personnelle, sont celles aussi que je porte dans ma vie professionnelle, dans mon travail, dans mes relations avec les gens qui sont autour, etc. Ah, ouais. Le point de départ de cette démarche de transformation pour Paul, c'est la consécration de son corps sous l'impulsion d'une intelligence renouvelée. C'est la base de toute l'activité du fidèle, du croyant. C'est-à-dire, parce que j'ai une intelligence renouvelée, eh bien, je vais consacrer mon corps tout entier à Dieu et aux valeurs que Dieu dépose en moi. C'est le point de départ. En même temps, quand on a un point de départ, il vaut mieux avoir un point d'arrivée. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Quand j'étais jeune, c'est ce qui paniquait mes amis et mes proches, ma famille, l'Église. Quand je partais, j'avais toujours un point de départ. Il se disait, on ne sait pas vraiment où il va arriver. Et ce n'était pas faux. Mauvaise organisation. Donc le Seigneur a mis une épouse à mes côtés pour garantir mon départ et mon arrivée. Je suis parti à la pastorale le dimanche. De 17h à 19h, on ne savait pas où était le point de départ. On savait qu'il y avait le point d'arrivée à Paris, mais on ne savait pas quand, à quel moment. Résultat, je suis arrivé à 1h30 du matin au point d'arrivée, alors que je devais y arriver à 10h. Vous voyez, avoir un point de départ, c'est bon. Avoir un point d'arrivée aussi. Le point de départ, c'est la consécration de ce que nous sommes. Et le point d'arrivée dans ce texte de Romains 12, c'est le retour du Seigneur. C'est-à-dire que tout se passe entre ces deux choses. Je reprends ce texte de Romains 12. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint. Et le chapitre 13 se termine sur les quatre versets suivants. Alors, je vais lire. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller afin, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire vos convoitises. Ça veut dire que le jour est proche, la conclusion du chapitre 13, c'est le point de départ, c'est aujourd'hui, vous vous donnez. Le point d'arrivée, c'est quand le Seigneur reviendra. Ah ! Est-ce que nous sommes prêts à la perspective du retour du Seigneur ? Et à nous dire, bah, entre les deux, entre le point de départ et le point d'arrivée, retour du Seigneur, il y a une invitation pour Paul à traverser simultanément les deux sphères que sont la vie religieuse et la vie civile. Il n'y a pas un où l'on peut être et l'autre qui n'existe pas. Avec ma famille qui n'est pas chrétienne, avec mon voisin, avec ceux avec lesquels je travaille, c'est une sphère dans laquelle Dieu m'appelle à être également. Nous avons donc bien le pendant de la partie doctrinale par un enseignement moral qui est le complément indispensable et nécessaire. Je vous exhorte donc. Et en fait, il y a un petit mot, et les petits mots ont leur importance. Je vous exhorte donc. Quand il y a un donc, en hébreu c'est un, ou en grec c'est un, eh bien ce un, ça veut dire, ça fait référence à ce qui est avant. Ce qui est avant, ce n'est pas le chapitre 11 des Romains. C'est les 11 premiers chapitres. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est que le salut, et que le juste vivra par la foi, et donc maintenant, je vous exhorte, à partir de cela, à vivre de manière différente. La religion, dans le judaïsme, c'était centré sur le culte avec les sacrifices. Le culte juif comptait 4 espèces de sacrifices. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur tous les sacrifices, mais il y avait 4 sacrifices principaux qui étaient en 2 catégories. Il y avait d'abord les sacrifices que l'on offre pour être réconcilié avec Dieu. J'ai entendu quelqu'un prier en disant « Waouh, ce mot de réconciliation, qu'est-ce que c'est génial, c'est formidable. Dieu a voulu se réconcilier avec nous. » Pas à n'importe quel prix. Eh bien, dans le culte juif, il y avait 2 sacrifices qui étaient axés sur la réconciliation. C'est le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour le délit, c'est-à-dire quand on faisait des fautes. Eh bien, quand il y avait ce type de sacrifice, on offrait des animaux de manière régulière. Alors, c'est en fait les sacrifices pour entrer dans la réconciliation, pour pouvoir être en réconciliation avec Dieu. Christ est ce sacrifice-là. Avant que nous soyons réconciliés avec Dieu, le sacrifice a été fait. Et puis, il y a deux autres sacrifices qui s'offrent quand on est dans la réconciliation. Bah ouais, pour les Juifs, il fallait des sacrifices pour entrer en réconciliation avec Dieu, et puis après, il fallait des sacrifices encore. Quand on était réconcilié, il fallait encore faire des sacrifices. C'est les sacrifices qu'on appelle l'Holocauste, c'est le sacrifice de prospérité. Alors, ça n'a rien à voir avec la théologie de la prospérité, mais voilà, quand on est réconcilié, il fallait encore donner quelque chose, ou en tout cas apporter des sacrifices. On voit bien que dans la première partie de l'épître aux Romains, le sacrifice offert par Dieu pour le péché et le délit de l'humanité, on le retrouve dans le chapitre 3 de Romains 25-26, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ça veut dire que, quelque part, Paul dit, voilà, Dieu, dans sa patience, a attendu, et il a présenté Jésus comme victime propitiatoire, c'est-à-dire victime pour porter, pour apporter la réconciliation. Le texte que nous avons dit, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et en fait, ce verbe en grec, c'est un verbe qui signifie en fait présenter. C'est moins offrir que présenter. Présenter vos corps comme un sacrifice vivant. Et ce verbe parastessai, c'est en fait un terme technique. C'est pas du tout un présenter. Tiens, je te présente un tel. Tiens, je te présente le pain, la viande. Tiens, je te présente telle situation. Non, non. Présenter parastessai, c'est le terme technique quand on présente un sacrifice à Dieu. Et très bizarrement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 22, facile à retenir, 2, 22, que des deux, l'évangéliste utilise le même mot en parlant de Jésus, parastessai, présenté. Mais présenté, c'est vraiment un terme technique, ce n'est pas présentation quelconque, c'est la présentation d'une offrande. Et ce verbe-là est utilisé par Luc au chapitre 2, verset 22, dans ce court passage. « Et quand les jours de leur purification furent accomplis », parle de Joseph et Marie, « selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Et en fait, le mot « présenter » dans ce verset-là, c'est le mot « parastessai », très étrangement. C'est-à-dire qu'ils viennent l'apporter au temple comme un sacrifice. C'est étrange, non? Apporter un enfant de quelques jours comme un sacrifice au temple, en dire voilà, nous te l'apportons, Seigneur. Ah! Après sa naissance, Jésus a été présenté comme une offrande sacrificielle jusqu'à ce que les temps soient accomplis pour que cela devienne réalité pour nous. C'est-à-dire, dès sa naissance, Joseph et Marie, il est dit qu'ils l'ont présenté comme un sacrifice. Ce n'est pas étrange, parce que l'évangéliste Luc, c'est un homme qui s'est converti au contact de Paul et qui a reçu de Paul le sens profond de la venue de Christ dans le monde et dans sa vie. Il a été présenté comme un sacrifice vivant. Alors, c'est à partir de là qu'il est dit, eh bien vous maintenant, une fois que vous avez compris cela, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde accomplie vis-à-vis de vous, à offrir vos corps, à présenter vos corps. J'aime bien... présenter, parastessai, à les présenter comme un sacrifice qui va être donné, consacré, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je vous exhorte. Certains exégètes disent que, notamment au début du XXe siècle, ce terme-là est un peu surprenant dans la bouche de Paul, dans cette lettre adressée à l'église de Rome, parce que l'église de Rome n'était pas une église qui avait été fondée par Paul. Et donc, exhorter semblait un mot un petit peu trop fort, parakaleo, hein, appelé contre, fortement. Et il disait, ça ne doit pas être un chapitre qui est dans la lettre originale de Paul aux Romains. Ça doit être quelque chose qui a été pris à part, un chapitre supplémentaire, le 13 aussi, certainement pour certains exégètes, qui a été envoyé à Éphèse, et puis ensuite on l'a récupéré, puis on l'a recollé. Mais non, non, non. Il s'agit d'un terme tout à fait adapté d'un apôtre qui, s'adressant à une église, dit « Si vous avez bien compris ce que je vous ai écrit, ce qu'est l'œuvre de rédemption de Christ dans vos vies, alors maintenant, je vous exhorte. » En fait, ce terme, j'ai été vérifié dans j'ai un gros dictionnaire, j'ai rangé ma bibliothèque, donc il était à portée de main, un gros dictionnaire grec-français. Et en fait, ce terme, parakaleo, ça parle d'un sentiment d'urgence avec une note d'autorité. Urgence et autorité. Et là, pour le coup, Paul, il a l'autorité. Il dit, maintenant, c'est urgent. Puisque vous avez saisi ce qu'est Christ pour vous, ce qu'il a fait, ce que le Père a accompli pour vous soyez réconciliés, alors il est urgent que vos vies soient transformées. Alléluia! Ou zut. Non, c'est peut-être zut, finalement. Oh, ah bon? Ouais. Est-ce que vous êtes simplement... dirait Paul aux Romains, mais il nous dit la même chose. Est-ce que vous êtes simplement un auditeur de la parole? Vous l'entendez? Vous l'écoutez? Ou est-ce que vous êtes un faiseur de parole? Un faiseur de parole, c'est-à-dire faire que la parole en vous vous conduise à l'action, pour vous-même et pour les autres. Auditeur ou faiseur? Choisis ton camp. Pour Paul, ce camp-là est déterminé. dans le grec classique, c'est le dictionnaire Bailly qui me l'a révélé, dans le grec classique, ce verbe parakaleo était utilisé pour exhorter les troupes qui allaient entrer dans la bataille. Je vous exhorte. Écoute, Paul, c'est bien gentil, mais plus tard, entrer dans la bataille, dans ma vie, me libérer de mes contraintes ou de ce qui me freine, ce qui me retient, vouloir vivre totalement la liberté de l'esprit, j'ai pas envie forcément de me battre tout de suite. Moi, je dis souvent, quand je travaillais au centre de Cœur du Dos, tous les matins, on chantait un chant. Et il y en avait un qui m'horripilait et que les patientes aimaient beaucoup. C'était « Bats-toi, serre les dents et bats-toi contre ceux qui veulent t'empêcher d'être heureux. » Et quand elles me proposaient ce chant-là, à chaque fois, je leur disais, vous savez, je crois que la vie ne peut pas être qu'un combat. Parce que si le matin, Francine me secoue au réveil en me disant « Bon, lève-toi, il faut que tu ailles te battre. » Je dis, je vais rester encore un petit peu au lit. Et si je dis que Paul dit là, je vous exhorte, c'est-à-dire, lève-toi et rentre dans le combat, je conçois que nous puissions nous dire, mais c'est trop dur. Non, pourquoi me battre? Parce que l'esprit, et c'est ce que dit l'apôtre Paul, étant transformé par le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit en toi te donne la possibilité de combattre ce qui n'est pas de la nature de Christ, de la pensée de Dieu dans ta vie. Il est là pour renouveler ton intelligence. Ah, par les compassions de Dieu. C'est-à-dire que quelque part, si tu as conscience des compassions que Dieu a eues pour toi, alors je t'exhorte. Lève-toi. Bats-toi contre ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Il y a dans la manière de présenter les choses, pour l'apôtre Paul, ce lien permanent avec les sacrifices. En fait, lorsqu'il dit « vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu », il mentionne en fait des caractéristiques qui étaient des caractéristiques en lien avec les sacrifices. Ou en opposition avec les sacrifices. Il dit d'abord, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Or, nos corps sont souvent considérés dans la doctrine chrétienne comme quelque chose de négatif. Or, le corps que nous avons, c'est un don de Dieu, avec ses capacités différentes selon les individus, complémentaires certainement. La fois où je mangeais à table, il y a quelques années, en face de Pascal et de Denis, le mari de Fanny, et qu'ils expliquaient leur capacité à faire des marathons et des semi-marathons, moi, je leur ai dit, vous savez, moi, je fais le tour du Lin à Guidel, à Gestel, sans problème, hein, 2 kilomètres. On n'a pas les mêmes qualités, les mêmes capacités. Ouais. Mais en même temps, nos corps, ce sont des dons, des cadeaux de Dieu. L'apôtre Paul ne dit-il pas que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il s'agit donc d'en prendre soin. J'aime beaucoup cette phrase de François d'Assise qui disait, en parlant de son corps, « mon frère l'âme ». Sous-entendu, c'est lui qui doit me porter jusqu'à la fin. Donc j'en prends soin. Est-ce qu'on prend soin? Est-ce qu'on reconnaît le cadeau que Dieu nous a fait avec le corps que nous avons? Ouais, mais à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, on peut difficilement dire à Dieu, écoute, je vais te donner juste mon intelligence, juste mon esprit qui rentre en relation avec toi, le corps, je le laisse, je le garde pour moi. Non, non, quand on donne son corps, âme, esprit. Alors on peut dire, est-ce que l'être humain est seulement un corps et puis une âme, un esprit, ou est-ce qu'il est corps, âme et esprit, peu importe la doctrine de l'homme qu'on peut développer, mais en tout cas, on a un corps qui contient cela, il est le contenant. Et quand on apporte le contenant, je suis invité ce midi à manger chez quelqu'un qui m'a invité. Donc, je vais apporter le vin, mais sans la bouteille. Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai acheté une... C'est la foire au vin en ce moment, donc j'ai acheté une bonne bouteille. Mais je prendrai juste le vin, pas la bouteille. Ça va être compliqué. C'est dans ce sens-là que Dieu dit, apportez vos corps comme un sacrifice vivant. Parce que quand on porte son corps, on le porte comme un contenant de tout ce que nous sommes. Est-ce que tu es capable d'apporter à Dieu tout ce que tu es sans rien retenir? Ah! Et quand il dit de présenter nos corps, c'est-à-dire comme un sacrifice, il dit maintenant, c'est un sacrifice vivant. C'est tout le contraire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les croyants étaient appelés à faire un sacrifice d'un animal mort. On venait, on le tuait. J'ai fait peur à quelqu'un que je préparais au baptême. Je lui disais, tu sais, le baptême, c'est le président de l'église du Danemark qui nous racontait ça quand il avait créé le collège biblique, l'église de Kolding, etc. C'était vraiment un pilier dans les années 60 de l'église du Danemark. Et il rencontrait un notable, parce que c'était un homme très, très fortuné. Il rencontre un notable qui le salue. Vous avez appris qu'il y avait des gens bizarres dans la ville maintenant. Il dit, ah bon, ouais, c'est des gens, ils sont chrétiens. Ah bon, et en quoi ils sont bizarres? Bah, ils baptisent les gens dans l'eau. Ah bon? Et qu'est-ce qui est bizarre? Ben en fait, il les baptise et puis il les laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'il y ait une colombe qui descende. Et M. Beck, qui était le pasteur de cette église, dit « Ah bon, d'accord, ah oui, non, je n'étais pas au courant. » J'ai dit ça à quelqu'un que je préparais au baptême, qui a eu un petit regard inquiet. Il me dit « Ah bon, c'est obligatoire, jusqu'à ce que la colombe descende ?» Non, non, dans l'Ancien Testament, le sacrifice était un animal mort. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce sont des sacrifices vivants. Ce qui intéresse Dieu, ce sur quoi il met la valeur, c'est qu'il vous a donné, qu'il m'a donné la vie pour l'éternité. Et c'est ces sacrifices vivants. Il ne veut pas d'hommes et de femmes qui meurent ou qui sont morts. Non, des êtres vivants. Moi, je suis très, très prudent sur ces cantiques. Tu sais, Seigneur, fais-moi mourir, fais-moi disparaître. Oh là 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 là, non, Seigneur, fais-moi vivre. Fais-moi m'épanouir dans la vie que tu m'as donnée, que tu m'as accordée par ton sacrifice à la croix. Et ce que dit Paul, c'est que votre sacrifice est un sacrifice vivant. Et je dirais même un sacrifice qui sera de plus en plus vivant de la vie de Christ. Alléluia. Sous cette nouvelle forme, la victime doit vivre pour être à chaque instant de son existence l'agent actif de la volonté divine, de la pensée de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés non pas à être morts, mais à être un sacrifice vivant. Être. Et le verbe être, c'est le verbe de la vie. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis celui qui est. Vayehu, vayeha. Je suis celui qui est. Dieu veut que vous viviez. La plupart des croyants pourraient accepter de mourir pour le Christ dans un instant de courage. Il y en a qui le font, qui meurent, qui sont des martyrs. Mais chaque croyant se bat pour mourir à soi-même et vivre pour le Christ chaque jour. Chaque jour. Je suis là pour vivre. Et la terminologie vivant, saint, agréable, c'est une terminologie judaïque. Vraiment, c'est ce qui est la caractéristique de ce qu'on apportait au Seigneur, des êtres vivants qui mouraient, mais qui devaient être saints, c'est-à-dire sans faute, consacrés, mis à part pour être donnés à Dieu. Et ça signifie aussi que nous devons tout faire pour promouvoir cette sainteté de Dieu dans nos vies. Alors être saint, c'est pas avoir une auréole sur la tête, non, c'est accepter que la nature de Christ en nous transforme notre être. Avec ce que nous sommes, avec notre personnalité. Dieu ne veut pas gommer notre personnalité. Hein. Il veut la sublimer. Tu te rends compte que Dieu veut sublimer ce que tu es si tu laisses son Esprit Saint agir en toi. Voilà pourquoi nous devons nous exercer dans nos vies personnelles à vouloir la sainteté de Dieu dans notre existence, dire la vérité dans l'amour, être dans cette vérité, enseigner aux nouveaux chrétiens, effectivement, comment vivre en tant que disciples. Soyons saints, c'est ce que dit l'Écriture, soyons saints comme Dieu est saint. C'est vraiment une œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Agréable. Ah, un sacrifice agréable. Déjà, je me disais que s'offrir en sacrifice, ce n'est pas facile, mais en plus, il faut qu'on soit agréable. Il y a des fois dans mon comportement, je me rends compte que quand je parle au quotidien, je ne suis pas toujours agréable. Bon, ça, c'est un petit aparté pour ma femme. Être agréable, ce terme s'appuie sur la notion de sacrifice ou de bonne odeur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il était dit un sacrifice agréable ou un sacrifice de bonne odeur. Est-ce que tu sens bon ? Ben, des fois, je ne sais pas. Vivant, agréable, lorsque vous présentez votre corps comme un sacrifice, vous avez accompli votre culte raisonnable. Quand on dit un culte raisonnable, ça veut dire quelque chose qui est de l'ordre de la logique. C'est d'ailleurs le mot grec pour raisonnable. Un culte raisonnable, c'est un culte logique. C'est ce qu'il est logique de vivre quand on a compris l'amour de Dieu pour nous. Oh, ah bon, c'est logique. Si vous considérez tout ce que Dieu a fait pour vous, un être pécheur, la seule réponse raisonnable est de lui offrir votre vie. C'est ce qu'il dit, Paul, au chapitre 6, versets 1 à 3, ou 15 et 16. Pourquoi des esclaves libérés continueraient-ils à servir leur ancien maître ? Présenter son corps pour servir les intérêts de son nouveau maître est complètement logique. S'offrir en sacrifice d'adoration témoigne d'un cœur plein de reconnaissance. Ah ! Alors peut-être que vous avez offert votre corps à Christ en promettant de l'honorer, en restant pur, mais vous êtes trouvé parfois dans des situations compliquées, compromettantes, en porte-à-faux, puis vous avez cédé à l'habitude, aux choses anciennes. Mais est-ce que nous pouvons entrer dans cette dimension-là au quotidien ? Vous avez été acheté à un très grand prix, dit Dieu. Au travers de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, vous avez été acheté à un très grand prix. Dieu n'a pas mégoté, il n'a pas triché. Et lorsqu'il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable, il le fait au regard de ce que lui, il a fait. Dieu n'a pas lésiné sur les moyens pour que nous lui appartenions. Alors, l'opposition entre le culte ancien et le nouveau, c'est logique. Se donner tout entier, c'est logique. Calvin disait, il opposait la logique de la foi, de se donner à Dieu, à la superstition des païens. Paul souligne que le culte qui repose de manière rationnelle par rapport à ce que Dieu a fait, eh bien, vous avez à le professer. Pas simplement à le recevoir intellectuellement, mais, et c'est la parole de ce matin, comment tu le vis ? Alors, décider de faire de ce culte que nous avons à offrir à Dieu quelque chose de raisonnable, eh bien, ça veut dire chaque jour pouvoir adorer Dieu, lui déclarer le matin, « Mon Dieu, à cause de Jésus, je suis à toi. » Les Juifs, tous les matins, les hommes prient et ils disent « Seigneur, je te remercie que tu n'as pas fait de moi un goy, c'est-à-dire un gentil, c'est-à-dire un non-juif. Je te remercie. » Ensuite, ils disent « Seigneur, je te remercie de ce que tu n'as pas fait de moi un esclave. » Parce que les esclaves ne peuvent pas, comme un bon juif, mettre en place les 613 commandements qu'un bon juif devrait vivre. Les goy non plus. Et puis, il termine la prière en disant « Seigneur, je te remercie que tu n'as pas fait de moi une femme. » Parce que les femmes n'ont pas l'obligation d'obéir aux 613 commandements. Merci Seigneur de ne pas avoir fait de moi un juif. C'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, Dieu te dit « Est-ce que tu es capable de faire de moi est-ce que de te donner totalement et entièrement. Ne vous conformez pas. Alors, je terminerai avec cette pensée-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le verbe qui est utilisé, c'est un verbe un peu compliqué, c'est « suskematizo ». Ne vous conformez pas. En fait, il est tiré d'une racine qui parle en fait de la robe ou des vêtements. C'est-à-dire, ne vous conformez pas, ne portez pas un vêtement de chrétien. Ne vous conformez pas, c'est ne revêtez pas une attitude, un vêtement, quelque chose qui vous fait paraître comme les vêtements. Quand je lisais ça, je me disais, ah ouais, c'est vrai que moi, quand j'allais à mon travail, je suis comme ici. J'avais une chemise grise ou bleue, une cravate bleue. Elle est belle, ma cravate. Hein, ouais. Je suis très classique dans mes goûts, tellement classique que quand j'ai acheté cette cravate, j'étais content. J'ai dit, ah, ça me correspond bien. Puis après, quand je l'ai mis sur mes cintres à cravate, je me suis rendu compte que j'avais la même sur le cintre. Voilà. Parce que quand j'allais travailler, c'était classique pour pouvoir être directeur dans l'établissement et de représenter quelque chose. Ouais. Mais est-ce que je représente aussi un chrétien avec un vêtement, une attitude, une apparence, etc. Ou est-ce que, je dirais, je me conforme de manière intérieure? En fait, dans ce verset, il est dit « Soyez transformés, non pas en changeant de vêtement, d'apparence, mais transformé par le renouvellement de l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit en vous transforme de l'intérieur le sacrifice que vous donnez à Dieu. » Alors je vous laisserai avec ces versets, avec cette parole. Dieu veut votre corps. Amen. Bon, là, vu tout ce que je viens de dire, il y a des amen timides. Ils se disent « Ouais, mais je ne savais pas que c'était tout ça. » Dieu veut votre corps et votre esprit et votre âme, votre être tout entier. Et ce sera de ma part, comme du vôtre, un culte raisonnable. Seigneur, tu n'as pas hésité dans le don de toi-même à te donner tout entier. Tu nous invites ce matin à être dans cette même logique. Cette rationalité spirituelle de nous donner tout entier à toi, sans rien retenir. Nous savons que c'est la voie la meilleure, la plus belle, la plus exaltante que de se donner tout entier. Alors Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons véritablement être dans cette démarche-là. Et si nous ne le désirons pas encore, fais souffler ton esprit afin qu'il déchire les voiles qui sont devant les yeux de notre cœur pour que nous découvrions la dimension de vie à laquelle tu nous appelles, les uns et les autres, en toi. Amen.